c'est lancé. Je pense, hein, je regarde. Ouais, c'est bon.
Là, ça enregistre.
C'est...
Bien. On reprend. Alors, j'avais pensé d'abord aborder le commentaire de Lipschitz, le Tiferet Israël, sur notre Mishnah. Mais après discussion avec le jeune Etelgui, j'ai préféré revenir sur le Yonah. Voilà, c'est un point difficile. J'aimerais y revenir, prendre un peu plus de temps. Donc, la leçon portera sur la question difficile de la servitude. Et vous allez comprendre pourquoi. Je reprends très vite la Mishnah. Donc c'est Rabbi Chanan ben Dosa, qui n'a pas laissé grand-chose, sinon ces deux, trois aphorismes. Kol Shema Asav, Merubin, tiens, Jean-Marie, tu t'apprêtes à traduire. Kol Shema Asav, Merubin, Mechochmato, Chochmato, Mitkayemet. Vas-y, première.
Il disait aussi, celui dont les actions excèdent la sagesse, sa sagesse durera.
Attends, Vechol Shechochmato, Merubin, Mimaasav, En Chochmato, Mitkayemet.
Mais celui dont la sagesse excède les actions, sa sagesse ne durera pas.
Voilà. Donc c'est une Mishnah sibylline, assez difficile. Et donc, je vais revenir sur ce commentaire de Rabbi Yonah, assez exceptionnel. Et je vais... En m'appuyant sur une Gemara, le Shabbat très célèbre, un morceau d'anthologie, comme on dit, essayer de donner un peu de... montrer un peu l'enjeu. Alors, Rabbeinu Yonah, vous l'avez. Donc, alors, ça commence par Rambam, mais finalement, nous n'allons pas le faire. Ça me prendrait trop de temps. Pourquoi j'ai laissé Rambam? Parce que Rabbeinu Yonah commence par citer le commentaire du Rambam. Les Rishonim, car Pirchou à Rishonim, Zal. Voilà, il s'arrête là, citant le commentaire du Rambam, le citant, résumant le commentaire du Rambam. J'aborde maintenant son commentaire à lui. Aval, demande Rabbeinu Yonah. Yesh Lishol, il faut poser la question. Ech efshar liyot ma'asav merubin mechochmato. Comment est-il possible que les actions d'un homme soient plus... Enfin, les actions. Entendez, les actions pieuses. Les actions de mitzvah. Les actions pieuses. Comment peut-on dire que les actions pieuses d'un homme sont plus nombreuses, excèdent sa science? Pourquoi? Parce que, dit le Rabbeinu Yonah, « Im eno yodea Torah va mitzvot, v'chi yeshu la'asot ha'masim ha'elu, alma asa'am. » Car, s'il ignore la Torah et les mitzvot, v'chi yeshu la'asot ha'masim ha'elu, et qu'il y a tels actes qu'il doit faire, s'il l'ignore, comment les fera-t-il? Il ne pourra pas les faire. Mais s'il ignore le mode d'emploi, il ne pourra pas s'y employer. Donc s'il ignore la Torah, les mitzvot, ça c'est... la question. Question, ouais, qu'on pourrait résumer. Dans l'ordre des obligations, des mitzvot, on ne fait jamais que ce que l'on sait devoir faire. Ça paraît évident. On ne fait jamais que ce qu'on sait devoir faire. Je parle dans l'ordre des mitzvot. Et je rappelle que par Chochma, Rabbeinu Yonah entend la connaissance de la loi. Yediato. C'est pas tout à fait vrai. C'est contestable, mais c'est son commentaire. Alors j'ajouterais, on sait devoir faire, donc on sait les mitzvot, plus qu'on ne fait effectivement. J'inverse cette fois. Non. S'il est vrai qu'on ne fait que ce que l'on sait devoir faire, l'inverse n'est pas vrai. On fait toujours moins qu'on ne sait devoir faire. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a plein de mitzvot, etc. Ça, quand on est instruit, genre. Et on en fait évidemment toujours moins qu'on ne devrait. D'où la mauvaise conscience, le sentiment de culpabilité, etc., etc., qui fait qu'on va allumer des bougies chez Raph Tintin. Et... Bon, vous savez, vous connaissez la suite. Il y a donc asymétrie. D'accord ? Mais ça, c'est asymétrie. Hein ? L'acte implique toujours le savoir de l'acte. L'acte que l'on fait, l'acte de mitzvah, l'acte pieux que l'on fait, implique toujours le savoir de cet acte, mais le savoir de l'acte n'induit pas toujours l'acte. C'est malheur, pensez-le. Voilà. Ça, c'est le premier point dans... Rabbeinu Yonah.
M'excuse, ouais. Déjà, c'est vrai, il y a des gens qui font des mitzvot
sans le savoir.
Sans savoir
mais ils ne font pas les mitzvot. Puisque ce n'est pas les shem mitzvah.
Il n'y a pas un débat là-dessus.
Non. Faire une mitzvah, chez l'eau, les shem mitzvah, c'est-à-dire sans le savoir, c'est rien. Non, je veux dire quoi ? Non, il y a des ignorants qui ne savent pas trop ce qu'ils font, mais ils savent confusément que c'est bien de le faire. Ils ne sont pas très instruits. C'est un gars. Mais il n'y a pas des monsieur Jourdain de la mitzvah à ça, non. C'est-à-dire qu'ils feraient la mitzvah sans le savoir. Deuxième point dans Rabbeinu Yonah, et c'est celui-là qui est le plus incroyable. Donc ça, c'est le problème, hein, c'est la question. Donc il se dit, comment Rabbi Chaim Mendoza peut-il prétendre qu'il existe, enfin, qu'il puisse exister, que les ma'asim, les actes, soient excèdent la science. Vous voyez, c'est contraire à la logique. Voilà. C'est inconcevable. Alors il répond. Réponse... Incroyable. Et là, chez Zoa Mishnah, Dibera Lefi Aetzatova, non, mais Koubelet, bon, ça c'est. Chez Yesh, l'eau, les Mishaino Yodea, il y a, pour l'ignorant, chez l'Oyovad Nafsho, alors, Yesh, l'eau, les Mishaino Yodea, chez lo yovan nafsho ve shikabel al atzmo la'asot kol advarim asher yigdu al hachamim. Il faut que l'ignorant, il y a lieu que l'ignorant, l'ignorant doit, lo yovan nafsho, premièrement, ne doit pas littéralement perdre son âme, mettre son âme en péril sous prétexte d'ignorance. Il doit accepter, yekabel aratzmo, accepter sur soi, ou, oui, de faire, c'est pas très français, mais se résoudre à faire Kol advarim asher yagidu l'chachamim, toutes les choses que les chachamim lui diront de faire. Velo yasur me'en yamin usmol, et ne pas s'en écarter d'un iota. Etc., etc. Et ce qu'il dit, ou miyad, donc je passe un peu, il se répète un peu, ou miyad, chez Kabbalazo, yekabel alatsmo, et aussitôt qu'il a pris cette Kabbalah, cette acceptation sur lui, belevav shalem, ou benefesh rafetsa, pleinement, Ma'ale Sachar, et voilà ce qu'il dit, Ma'ale Sachar, il est récompensé, Keilu Kibel Alav Kola Mitzvah, comme s'il avait fait toutes les mitzvot, comme s'il avait accompli toutes les mitzvot. Valder Erzo, Amrou, c'est en ce sens qu'ils ont dit, que Rabbi Chaim Ben Dosa a dit, Kol shema'asav merubin mechokhmato. Kol ma'asav merubin mechokhmato. Tous ses actes excèdent. Celui dont tous les actes excèdent, c'est-à-dire la totalité des actes, la somme des actes, excède la science. Alors, qui af, car même Mishay no yodea, même l'ignorant, veno, c'est qui ne fait donc rien, puisqu'il ignore. Donc l'ignorant, Nikraïn, alors on parle de cet ignorant qui, alors étant ignorant, accepte de tout faire, d'écouter les chachamim, etc. Donc on est au moment où il prend sur lui deux. À ce moment d'ignorance, comme il n'a rien fait jusque-là, à ce moment d'ignorance, à ce moment de son ignorance, d'accord, au moment de cette acceptation, Nikraïn Maase. C'est Nikra, ça s'appelle Maase. Un acte. Acte. Ça s'appelle acte. Il a accepté cette acceptation, ça s'appelle acte. Il va même plus loin. Il dit Ki yeshlo sachar aleim kilu asa'am mipia kabbalah. Ça s'appelle acte. Al-shem ki yeshlo sachar aleim. À cause qu'il reçoit une récompense. À cause qu'il est récompensé comme s'il les avait fait, comme s'il les avait faites, mais Pierre Kabbalah, en vertu de cette acceptation. Incroyable ce qu'il dit. Donc, c'est comme ça qu'il résout le problème. D'accord ? On a vu qu'il y avait un gros problème de cohérence. D'accord ? Puisqu'on ne fait jamais que ce que l'on sait devoir faire, comment peut-il se faire que les actes excèdent la science? On ne peut pas faire plus qu'on ne sait. Rabbi Yonah lui a dit, si, parce qu'il faut entendre que l'acceptation, ce que j'ai appelé la dernière fois la pure disposition, l'acceptation, la Kabbalah, la pure disposition, c'est-à-dire se disposer à tout faire, cette pure disposition vaut tous les actes. Voilà ce qu'il dit. Par conséquent, celui-là est ignorant, mais il a déjà tout fait. Ayant s'étant disposé à tout faire, c'est comme s'il avait déjà tout fait. Il est donc, en regard de son ignorance, ses actes sont infiniment nombreux. Voilà. Alors on pourrait dire, c'est une pirouette rhétorique. Je vais donc m'évertuer à vous, à démontrer le contraire. Mais ça, encore une fois, c'est un pirouche, un commentaire subversif, à la portée subversive, mais incroyable, incroyable. Je ne comprends même pas qu'il n'ait pas été censuré. C'est bien une preuve que les rabbins ne lisent pas, parce que, je veux dire, les rabbins, prêt-à-porter. Je veux dire. Hein, ils ne lisent pas, parce que c'est pas vrai. S'ils avaient lu ça, ils se seraient arrachés. Les... En tout cas, voilà. C'est un commentaire assez exceptionnel. D'accord ? Ça, c'était le deuxième point. Donc, chez là, la question d'abord, la solution, la réponse ensuite, cette réponse tout à fait inédite, à laquelle je vais revenir. Il cite ensuite le Chen Meforash. Il cite ensuite Avot de Rabbi Nathan. Donc, la Braïta, les Braïtot, sur le traité Avot, qu'on appelle traditionnellement Avot de Rabbi Nathan, les Avot de Rabbi Nathan. Dans ces Braïtot, qu'est-ce qu'on lit ? Des Tana Nathan, donc on enseigne là-bas, dans la Avot de Rabbi Nathan, une chose, vraiment presque rien. On dit, « Kol shema asav merubin mechochmato chochmato mitkayemet » Shenema, comme il est dit, donc, quiconque, celui dont les actes excèdent la science, sa science consiste, comme il est dit, Naase Venishma. Voilà, c'est tout ce que dit l'autre ami. Naase Venishma. Nous ferons et nous entendrons. Voilà. Sur Naase Venishma, il faut, pour y comprendre un peu quelque chose, à cette braïta, la voix de Rabbi Nathan, il faut revenir à la Gemara, ou plus tard, à la Gemara que vous avez, donc une Gemara très célèbre, un grand morceau d'anthologie, je crois que même Lévinas a commencé. Dans Shabbat, Perhet Amoud Aleph, 88a, vous avez le mot. Je vais donc... Vous le lire. C'est absolument magnifique. Hein. C'est encore une fois difficile d'accès, mais Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit Beshah shigdimu Israël naase lenishma. Quand Israël, les Israélites, ont dit d'abord naase avant nishma. Qu'est-ce qui s'est passé? Yatzta bat kol, une voix céleste, comme on dit, un écho céleste, a retenti, disant, mi gila levanai, razze, qui a donc révélé ce secret à mes fils? Qui donc a révélé ce secret à mes fils? Shemal ache acharet mishtam shimbo, secret dont les anges font usage. Comme il est dit, dirent-ils, et on cite un verset des psaumes, « Baruchu Hashem, Malachav, Dibure Koach » Donc, bénissez Hashem, Malachav, ses anges, Dibure Koach, héroïque, enfin, fort, Rosedvaro, qui accomplissent sa parole, Lishma Bekol Levaro, pour entendre sa voix. Or, qu'est-ce qu'on dit, dit la Gemara, Beresha Rosé Vahadar Lishma. Qu'est-ce que dit le verset des psaumes, qu'est-ce que dit le psalmiste? Que ces anges sont d'abord Rosé, sont d'abord agissants, puis ensuite entendants. En ancien français, entendeur. D'accord ? On voit donc que les anges, déjà, font précéder le maasé au le naasé au nishma. Pour illustrer la chose, Amar Rav Chama bar Rabbi Chanina. Maï dirtiv, donc on l'illustre, Rabbi Chanina, Rav Chama l'illustre d'un verset de Shirashirim, qui est tapuach ba'atsayar. Il est comme une pomme dans les forêts, sur les arbres des forêts. Et là-dessus, Rav Rama demande, l'amanim chelou Israël, puisque évidemment, vous savez que c'est une allégorie d'Israël, le Cantique des Cantiques, l'amanim chelou Israël, pourquoi Israël est-il comparé au tapouar, à la pomme, l'omar lecha, parce que ma tapouar ze pirio kodem le'elav, av Israël, ik dimuna sen mishma, de même que la pomme, le fruit, ça j'en sais rien maintenant, le fruit apparaît avant les feuilles. Moi, j'ai pas très bien compris ce... Le fruit apparaît avant les feuilles. Bon, dans les pommiers de jadis. Af Israël, de même Israël, ikdimu naaseh nishma. De même Israël a d'abord dit, déclaré naaseh, puis nishma. D'accord ? Il était normal que la feuille apparaisse avant le fruit, comme il était normal que l'on déclare « Nishma, nous entendrons, puis nous agirons, nous ferons. » Eh bien, c'est le contraire. La pomme sort de l'ordinaire comme Israël est sorti de l'ordinaire. Là-dessus, on raconte une anecdote. Alors, juste simplement, le Beshar Shikdimu, sur Beshar Shikdimu, c'est le titre du, je le dis en passant, parce que j'ai des dadas, c'est le titre du discours 1912 du Rashab, qui est sans doute le plus grand, le sommet de la métaphysique juive, toute tendance confondue. C'est le discours de 1912 qui commence intitulé Beshar Shikdimu, qui est uniquement sur ces questions. Il y a plus de 2000 pages, mais d'une... C'est un sommet de la métaphysique. Donc c'est tout pour vous dire combien c'est ici. Nous approchons, enfin, nous survolons des sommets. L'action raconte une anecdote. Haou Mina. Alors, ici vous avez Mina, mais dans d'autres versions, on a Tzedoki. Un sadducéen. Alors, Min, c'est le chrétien. Alors, pas... Oui, c'est le chrétien, c'est un des premiers chrétiens. Alors, quel chrétien? Bon, est-ce que c'est des Nazaréens? Alors, je ne vais pas faire de commentaires sur les différentes sectes judéo-chrétiennes. Disons, grosso modo, c'était les Nazaréens. Donc, les héritiers de Jésus. Pour d'autres, dans d'autres versions, c'est les sadducéens. Ce qui n'est pas la même chose. Moi, je préfère la version sadducéenne. Des Chazier les Rava, qui vit Rava, c'est très connu. Hein. Des Kamarien Beshmata, qui était Maragen, qui était enfoncé dans l'étude. Ve Yatva et Zbaata Didé Toutekara. Et il avait donc les doigts sous les jambes. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai peut-être une position favorable à la réflexion, on ne sait rien. En tout cas, il avait les mains sous les jambes. Ve kama etzbeu, il est pressé, même sous les pieds, on peut dire. Il pressait sur ses. Mais sans même s'en apercevoir, vous savez, comme on a des. Comme on griffonne quand on réfléchit. Eh ben lui, il avait les doigts sous les pieds, et il pressait à force de concentration. Et ses doigts ont giclé le sang. Donc il a littéralement pressé ses doigts qui ont voilà. Alors le mine voit ça. Disons le sadducéen. Il n'y a pas de sadducéen dans la salle, donc au moins les subtilités sont sauves. Donc le sadducéen, il voit la scène. Et qu'est-ce qu'il dit ? À Marley, à Mapaziza. C'est tout ce qu'il trouve à dire. Alors, quel rapport ? À Mapaziza. Peuple impatient. des kadmitu pumaihu leudunaihu, qui avaient donné la priorité à la bouche plutôt qu'à l'oreille. Vous avez parlé trop vite. Naase v'nishma, naase. Ne parlez pas trop vite. Akte bepachazutaihu kaimitu berecha. Encore dans votre précipitation. Non, pardon. Kaimitu. Vous vous tenez. Vous êtes quand même. Vous êtes encore dans cette. C'est-à-dire, toi, Rava, donc au Sinaï, c'était le cas déjà. Et c'est encore le cas. Je le constate, je vois Rava, dit le Sadducéen. Vous êtes encore dans cette impatience. Berecha, ibaïlechou le mishma. Vous auriez dû d'abord entendre. Un peu d'esprit critique. D'abord entendre. Mûrir. Imatsitu, alors, si vous y consentez, Kablitu, vous acceptez. Veila, lo, la Kablitu. Sinon, vous n'acceptez pas. Donc, je ne sais pas, le bon Dieu vous propose quelque chose, ben, vous vous donnez le temps de la réflexion. Et si ça vous paraît bon, vous acceptez. Sinon, vous renvoyez. Voilà ce que lui dit Sabister. Pourquoi n'avez-vous pas pris le temps de la réflexion? C'est vrai, c'est pas parce que c'est bon Dieu que... Et vous savez ce que répond Ravin? Il dit « Amar le anan desaginan bishlemupa ». Nous, on va confiants. Voilà l'échange, pour illustrer. Rien que ça, hein, cette anecdote, pour illustrer le Naaseh v'Nishma. Rashi. Rashi, là-dessus. C'est le premier qui est, hein, pour moi, le Rashi fondamental. On va les faire tous, mais c'est le premier qui compte. Rashi dit sur Oseh Dvaro Lishma, sur donc les anges qui accomplissent, puis avant d'entendre. Rashi dit, écoutez bien. Alors c'est ça n'est pas un fait exprès, mais j'avais parlé de pure disposition. C'est le terme même de Rashi. Rashi dit, Mouchanin l'asot. Ils sont disposés à faire, ces anges-là. Ils sont disposés à faire Kodem Shishmeu, avant même que d'entendre. Et regardez ce qu'il ajoute. Incroyable. Bon, il va s'arrêter là. Rashi ajoute un coup de crochet. Velo kederer shear avadim. Pas comme les autres esclaves. Pas comme les esclaves de toutes sortes. Pas comme les serviteurs de toutes espèces. Qui quoi? Écoutez bien. Chez Shomaim Techila et Tadavar, les da, im yecholin, les kablan aleim, im lav. Qui, Shomaim Techila et Tadavar, qui écoute d'abord pour savoir s'ils pourront, pour savoir si c'est recevable ou non. Alors là, déjà, on est très surpris. Je ne savais pas que les esclaves, par exemple, encore les serviteurs, c'est possible. On connaît la malice des serviteurs. Mais les esclaves, je ne savais pas que les esclaves, oula, attendez, ben, vous voulez entendre d'abord, pour savoir si c'est recevable. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Rashi? Gros morceau, Rashi. Très gros morceau. C'est un des rachis où tout son génie éclate. génie à la fois. Concision et de profondeur. J'y reviendrai. Évidemment, tout mon propos va tourner autour de ce rachis. Alors, sauter les rachis qui sont simplement des gloses explicatives, aller dans le dibur amatril, des kadmitu pou maïchu, les udnaïchu, vous avez fait précéder, donner la priorité à l'oreille, à la bouche plutôt qu'à l'oreille, il dit, kodem sheshama temota, er hi kasha, ve im tuchlu lamod ba, kibaltem alechem likaima. Avant même d'apprendre combien elle est dure, la Torah. Donc, effectivement, il le voit, Rava, qui se fait saigner, quoi. Il dit, ah ben, vous êtes dingue. C'est à ça que vous porte l'étude. Ça nous change. Enfin, ça nous change des savants en pantoufles. Là, c'était... Avant même que vous appreniez, avant même d'apprendre combien er hi kasha, combien elle est dure, la Torah. Avant même de im tuchlu lamod ba, et avant même de savoir si vous pourriez tenir, quoi. Kibaltem alechem lekaima, vous avez pris sur vous de la faire, de l'accomplir. Mais vous êtes dingue. Vous êtes dingue. Si vous aviez su, si vous aviez attendu d'y voir un peu plus près, vous seriez aperçu combien c'est dur, la Torah. Combien c'est dur. Vous seriez aperçu qu'on ne tient pas. Un juif ne tient pas le coup, quoi. Ils ont beau faire, ça. Se mettre des paillasses, s'enfoncer des Steiner, se coincer dans des fracs. Rien n'y fait. Je ne vais pas vous faire le coup de Paul. Hein. Paul a assez fait déjà, le malin, les a assez déjà démasqués pour... Donc c'est dur. C'est dur à enseigner. Après, tu vois... Jusqu'où il faut aller dans l'étude. Enfin, réponse de Rava, Saginan Veshemuta. Saginan, on va. Olchim Veshemuta. On va en confiant. Nous allons confiant. Rashi, it halachnu imo. On marche avec lui, donc avec le maître. On marche avec lui, betom lev. Avec intégrité. Kederech aussi mehava, comme tous ceux qui agissent d'amour. Comme tous ceux qui agissent d'amour. Le samachnu alav, et nous avons confiance en lui, shelo itanenu bedavar shel nuchal amadbo, qui ne nous chargera pas d'un fardeau que nous ne saurions porter. Voilà. Le Sadducéen, alors le Sadducéen, vous l'avez compris, enfin, vous devriez l'avoir compris, le Sadducéen, c'est évidemment, c'est le juif assimilé. Alors, pas l'assimiler, on est en Eretz Israël, donc pas l'assimiler à son environnement, puisque l'environnement était encore juif. Non, assimilé, c'est hellénisé. Ça voulait dire ça. Le juif hellénisé. Le juif gréco-romain. Le Sadducéen. Le juif pour qui les rabbinades, c'était des sottises. Le juif pour qui il y a bien une Torah. Hein, c'est pas un renégat, hein, le Sadducéen. C'est, à certains égards, c'est un nationaliste juif. Pour qui la Torah, c'est un peu comme les lois écrites d'Athènes, de Sparte. C'est le, ce qu'on appelle, en droit romain, le droit positif. C'est-à-dire, voilà, les juifs ont leurs droits, ont leurs lois écrites, c'est la Torah. Mais pas plus! Rien d'autre! Pas plus! Tous les délires rabbiniques, les ch'touillats, les bilvesés. Le reste, comme diront, pour le reste, c'est-à-dire, s'il y a des lois non écrites, c'est pas des lois rabbiniques, c'est les lois naturelles. Les lois universelles. Ce que les Romains ont appelé le droit naturel, je vous renvoie à Cicéron, qui définit très clairement, c'est dans les lois, très clairement la différence entre le droit positif et le droit naturel. Il dit que le droit positif, c'est le droit particulier à chaque peuple, à chaque cité, tandis que le droit naturel, c'est le droit universel, le droit de l'homme. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, avec des trémolos dans la voix, le droit de l'homme. C'est ça. C'était ça. C'est un peu plus, ça avait un peu plus de gueule à l'époque, droit naturel. Mais voilà. D'accord ? Ça, c'est le Sadducéen. Voilà. Donc, vous avez les textes. Ces textes sont très, très bons. Ce Rashi, bien sûr, j'y reviens, est pour moi fondamental. Ce Rashi qui dit « Mouchanim la'asot kodem shishmeu » bien sûr, première chose, puisqu'il dit ce que j'ai dit la dernière fois, il parle de pure disposition. Mouchanim la'asot. D'angélisme, si on peut, puisqu'on doit parler d'angélisme, puisque c'est le raz, c'est le secret des anges. Donc il y a bien un angélisme. En quoi consiste-t-il ? En une pure disposition. En des actes d'amour, comme dit ensuite Rashi. Ce qui m'intéresse, c'est bien sûr cela, mais c'est aussi la suite. Que c'est la suite qui m'intrigue le plus. Comment oppose-t-il cette pure disposition à la avdoute, à la servitude? En vérité, il faut parler de servitude servile. Et je reviendrai. Comment oppose-t-il la pure disposition à la servitude servile des avadim, laquelle, elle, à la différence des anges, enfin de l'angélisme, elle est, pour ainsi dire, réfléchie, entre guillemets. Alors, enfin, j'espère que vous voyez le caractère paradoxal de ce Rashi, ce qu'il y a d'étonnant. Parce que, naïvement, on serait tenté de dire que la servitude, d'accord, c'est de se rendre disponible au maître, à toutes ses volontés. C'est comme ça qu'on entend la servitude. Enfin, la servilité. C'est se mettre à la disposition d'un supérieur. Rashi dit pas ça du tout. Très étonnant. Rashi dit pas ça du tout. Il dit, c'est pas ça la servitude. C'est pas ça la avdout. La avdout, c'est le shéar d'Avadim. Hein. C'est toutes les autres formes. Donc, il y a les anges et il y a toutes les autres formes de servitude. Il y a le service des anges et la servitude. La avdout. Sacré Rashi. Tia, tu peux me donner à boire ? Ou Loulou ? Ce que j'ai appelé donc la dernière fois pure acceptation, la Kabbalah, ce que Rabbeinu Yona a appelé la Kabbalah, cette pure acceptation. Dans l'ignorance même de ce dont il s'agit, J'accepte. Cette pure disposition, pourquoi l'appeler pure disposition? Alors je suis confirmé par Rachid. Rachid me confirme qu'il faut appeler ça disposition. Mouchanim en hébreu, ça veut dire disposé à. Mouchanim, là, ça. Disposé à faire. Est-ce qu'on ne serait pas plus autorisé à appeler ça pure obédience? Pure obédience. Servilité. Merci. Vous suivez jusqu'à là. C'est simple. J'espère que vous sentez là le caractère de ce rachat de caractère. Enfin, ce coup de patte de Rachid. Tout subordonné. Subordonné. Tout soldat n'est-il pas disposé à faire tout ce que son supérieur lui ordonnera? Encore une fois. C'est donc qu'il y a ambiguïté, ambiguïté du nishma. Parce que chez presque tous les rabbins de mauvaise aloi, nishma, ça justifie la rabout. Ça justifie la servilité, la servitude. C'est même un idéal de servitude. Il y a, d'accord, dans tous les milieux, mais pas seulement chez les juifs, hein, chez les chrétiens, c'est pareil. Il y a, il existe un idéal de servilité à Dieu. C'est pareil. Je suis ouvrir un livre de théologie, un livre de Moussard. Ça, c'est l'objection. Attends. Cette pure disposition, mais qui me dit que c'est pas de la... Ça n'est, qui me dit que ça n'est jamais... que ça n'est pas que de la... que de la servilité, en fait. Alors, c'est pas parce qu'on dit pure disposition. Ça change quelque chose à la cruelle réalité servile. Voilà l'objection. Quelle différence y a-t-il? S'il y a différence, c'est un quoi? Je vais c'est à le démontrer que et m'évertuer. Quelle différence y a-t-il entre la pure disposition et la pure obédience ou servilité? Quel est ce secret des anges? Rase, secret. Quel est ce secret des anges? Quel est ce secret de la pure disposition? Alors, ce Rashi, capital et capital, bien sûr, mais voilà, il est à double tranchant. Parce que du coup, on va dire, mais quoi? Alors, on va le lire, mais quoi? Cette pure disposition dont tu parles, Mouchanim Larson, cette pure disposition des anges, c'est pire que l'obédience! C'est pire que l'esclavage. C'est elle la pure servilité. Pourquoi? si l'on en croit Rashi, parce que l'esclave, lui, au moins, n'accepte pas tout. Vous l'avez lu, le Rashi. C'est ça qui est incroyable dans les Gers. C'est qu'il affirme qu'un esclave, en vérité, en dépit des apparences, n'accepte pas tout. C'est ce qu'il dit. Shomaim techina et adavar, ils entendent d'abord la chose, leda im yecholin et kabelan aleim, imlo, s'ils pourront, pour savoir s'ils pourront l'admettre ou non, l'accepter ou non. Donc, quand on se dit, ce qui nous fait passer, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est bien sûr, il distingue la pure disposition à la servilité, mais en vérité, c'est un tour de passe-passe. Parce que cette pure disposition, c'est une servilité pire encore que la servilité des esclaves, puisque les esclaves, nous dit Rashi, ne sont pas si serviles que cela. Vous voyez la difficulté. Alors, reste à montrer que Rashi ne vante pas ici une servitude plus servile que la servitude. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi, si l'on y regarde de près? Il dit la chose suivante. Alors, je vais... Nous avons la chance de parler français, donc je vais jouer sur les... nuances de la langue française. Alors, pas les nuances contemporaines, hein. Je vais remonter loin, je vais remonter jusqu'à l'ancien et le moyen français, mais vous allez comprendre pourquoi. Ce que nous dit Rashi, c'est que tout esclave, Aïven, entend servir. Tout esclave entend obéir. Donc il y a une nuance en français sur le verbe entendre. Et je vais jouer évidemment sur cette nuance parce qu'elle explique, elle éclaire les mots. En français, on dit « j'entends faire ceci ou cela ». J'entends faire ceci ou cela. C'est-à-dire que j'ai l'intention de faire ceci ou cela, mais on dit il y a une nuance. Faire ceci ou cela est acceptable et je le ferai. J'entends faire ceci ou cela. Rashi nous dit que tout service, toute obéissance humaine est entendue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le service, la avdout, devait excéder l'entendement, et c'est là que je joue sur. Enfin, c'est là que je recours à l'ancien français, au moyen français. L'entendement, en français moderne, en français classique et moderne, ça ne veut dire plus qu'une chose, c'est-à-dire la faculté de comprendre, etc. Dans l'ancien français jusqu'au moyen français, l'entendement, ça veut dire autre chose, ça veut dire aussi la connivence. Comme on dit, on s'entend, je m'entendrai avec lui. Connivence. Entendement, ça veut dire ça. C'est comme ça qu'il faut l'entendre ici. C'est comme ça que je l'entends ici. D'accord? Bon. Ayez à l'oreille l'ancien français. Le service, si le service, par un doute, devait excéder l'entendement du serviteur, où l'obédience excédait l'entendement de l'esclave, l'un et l'autre se révolteraient. Voilà ce que dit Rashi. Bon, je romantise un peu. Hein. Révolte, Rashi, il ne parle pas de révolte. Mais bon, ça veut dire ça. Autrement dit, il y a, comme pour ainsi dire, dans l'esclavage et dans la servitude, il y a quelque chose de l'ordre de la connivence. S'il est demandé plus à l'esclave que ce qu'il était entendu, l'esclave serait bon. C'est exactement ce qui arrive au Froum ordinaire, hein, Froum lambda, enfin au dévot. Mais c'est très flagrant dans les milieux juifs. Un juif est Froum, c'est Froum servile, hein, servile. Il est servile, mais soudain, il craque. Alors c'est pas un coup du sort. Non. C'est vrai de tout juif. Servile. Il y aurait un moment où il craquerait. Alors ce moment n'arrive pas toujours pour ces juifs. Il y en a qui sont plus malheureux, plus mal lotis que l'autre. Donc ça leur arrive à eux. Je sais pas, moi, un problème de Parnassa. Quelque chose, tu vois, là, quoi, ça m'arrive, quoi, là, ça m'arrive. Moi, je faisais ma tefila là, je ne veux pas parler même de la Shoah, on va pas aller si loin, mais... D'accord. Quoi, ça m'arrive, quoi, hein, quoi. Je rejette, je suis pour école. Je rejette. Fini, j'arrête. Mais quoi, t'as été servile jusque-là? Pourquoi tu n'es pas jusqu'au bout? Servile. Parce que, nous dit Rachid, toute servilité comporte de la connivence. C'est-à-dire qu'il y a dans toute servilité toute servilité, un seuil au-delà duquel il y a révolte. C'est vrai de tous les esclaves, de tous les serviteurs, de tout esprit servile. C'est vrai de tout le monde, parce que tout le monde est plus ou moins un esprit, un servile, un serf, S-E-R-F. C'est beau ce terme, insert. On est tous plus ou moins serviles. Mais ce qui veut dire que nous sommes de connivence avec le maître, quel que soit le maître, qu'on l'aime ou qu'on le haïsse, ça n'y change rien. C'est une connivence, je le précise, qui n'est pas nécessairement, c'est pas une entente avec le maître. Non. C'est une connivence du serviteur, du serf à l'égard de son maître, sans même que son maître y soit pour quelque chose, sans même que le maître... C'est presque une connivence spontanée de l'esclave avec son maître. Tout esprit servile entre en connivence avec son maître. Que son maître soit haï ou aimé. Donc que la servitude soit forcée ou volontaire. Ça n'y change rien. Alors, on va aller... Je vais aller doucement, mais c'est très important parce qu'on va aborder des questions cruciales. J'espère que nous n'irons pas trop vite. Ça, c'est important, ce point chez Rachid. Vous voyez que ce Rachid, c'est du surfin. Il y a du chocolat surfin, non? C'est du surfin. Il y a du chocolat fin, et du surfin, de l'extra fin. C'est un Rachid extra fin. J'entends servir mon maître, j'entends obéir à mon maître, à mon chef. Oui. Même la servitude est de convention. de connivence. Parce que entendre, entendement, ça a aussi signifié convention. Encore une fois, dans l'ancien français, dans le moyen français. Même subjugué, même soumis par la force, l'esclave entend encore obéir. Extraordinaire ce que vous avez dit. Même subjugué, même Spartacus, avant la révolte, même écrasé par un maître, l'esclave entend encore obéir. Il y a encore quelque chose de l'ordre, de la connivence. Même menacé des châtiments les plus cruels, l'esclave entend encore obéir. Entend encore obéir. Toute obéissance servile relève d'un entendement de l'esclave. Quand je dis « il entend obéir », je veux dire qu'il pourrait ne plus entendre. Il y a toujours cette possibilité-là. C'est si, vous allez comprendre plus tard, je vais y revenir, c'est ce qui fera croire à Sartre qu'un esclave est toujours libre, est encore libre. Mais je pense que Sartre fait un contresens. Mais peu importe, j'y reviendrai. Qu'un esclave entend obéir, il faut comprendre qu'il peut refuser d'obéir. Il a toujours la possibilité. Il se donne toujours la possibilité de refuser d'obéir. Toute servitude implique une connivence secrète avec le maître. Je dis secrète parce que secrète même pour le maître lui-même. Mais vous allez comprendre aussi que dans le dispositif de la terreur, on en tient compte de cette connivence. Toute terreur, religieuse ou politique, toute terreur consiste presque inconsciemment à repousser les limites de l'entendement servile. Un entendement servile se pose des limites, au-delà desquelles il se révolte. On appelle la connivence. La terreur, ça consiste à repousser ses limites le plus loin qu'on puisse. Évidemment, puisqu'on ne veut pas de révolte. Donc ça consiste à repousser ses limites. Il n'y a pas de servitude qui ne soit de connivence avec son principe. Le principe de la servitude étant soit la force, soit la tyrannie, soit la toute-puissance, peu importe. Il n'y a pas, je le répète, de servitude qui ne soit de connivence avec son principe. Il n'y a pas de servitude qui ne soit servile. Il n'y a pas de servitude, enfin, qui n'envisage pas la révolte. Alors, vraiment, là, c'est un point délicat. Il faut bien être très attentif. La servitude est d'autant plus servile, c'est ce que nous dit Rachid. Enfin, oui, c'est ce que laisse entendre Rachid. La servitude est d'autant plus servile qu'elle est entendu. En vieux français, entendible. La servitude est d'autant plus servile qu'elle est entendue. La servitude est d'autant plus servile qu'elle se donne des limites. La servitude est d'autant plus servile, et c'est ça qui est incroyable, c'est tout le côté caractère paradoxal de ce rachi, la servitude est d'autant plus servile qu'elle n'est pas absolue. Ça, c'est incroyable. La servitude est d'autant plus servile qu'elle n'est pas absolue. Ça en fout un gars. Ça en fout un choc. Parce qu'on se dit, ouf, on reste libre, quoi. Mais non, c'est le contraire. C'est ça qui va être incroyable, ce renversement, comme dirait l'autre, renversement dialectique. Je suis d'autant plus servile dans les limites que je me suis assigné, que je suis prêt à me révolter si l'on dépasse ces limites. Vous voyez le côté, ce jeu dialectique de là. Ce qui aggrave la servitude, c'est justement la possibilité de la révolte. C'est affreux quand on disait ça. Après, ça vous donne tout, ça vous coupe l'envie de faire la révolution. Je vais vous dire, pour un fils de révolutionnaire, c'est dur. J'accepte d'autant plus la servitude dans les limites de mon entendement que je la veux inacceptable au-delà. Ça, c'est le coup fatal. C'est ce que dit Rachid. Je ne fais là que commenter Rachid. Et c'est pourquoi les tyrans, les maîtres de toutes sortes, n'ont de cesse de vouloir repousser toujours ses limites à l'insu des esclaves que nous sommes. Toute la stratégie, c'est justement de repousser ses limites dans l'entendement, dans la conscience servile. Si bien que, bien sûr, il y aura toujours un au-delà de la révolte, mais tellement loin qu'entre-temps, qu'est-ce qu'on se les tape, ces esclaves. Qu'est-ce qu'on les... Et c'est ce qui rend la révolte si difficile, parce qu'en vérité, on ne se révolte pas contre la servitude, seulement, mais seulement, contre une servitude inacceptable. C'est ça le malheur, c'est ça qui fait, ça qui est tellement difficile. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi les mecs, les gens ne se révoltent pas ? C'est-à-dire que le monde est assez révoltant, quoi. Pourquoi ça se révolte pas ? Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a dans l'idée de personne, parce que nous sommes tous des consciences serviles, il n'y a dans l'idée de personne qu'il faille se révolter contre la servitude. Non ! Il ne faut se révolter que contre la servitude inacceptable. Seulement, ce qu'on ne voit pas, c'est que les gros malins, ils les ont repoussés très loin, les limites de l'inacceptable. Alors, du coup, vous pouvez toujours courir, mais c'est pas grave. On se dit qu'on a quand même recours, le recours à la révolte. Tu sais, j'ai un recours en dernière instance, la révolte. Alors, ça nous donne un bol d'air, ça nous donne une conscience de supérieur, alors qu'on n'est qu'un vil ver de terre servile. Regardez le monde, c'est d'une telle servilité que ça donne envie de vomir. Et ben voilà, ça vient de là. Ça vient de ce rachis-là. Alors, c'est pas rien ce point. Je vais parler de ça tout à l'heure parce que c'est important quand même. Une petite parenthèse existentialiste, ça. Ça donne du baume. Vous connaissez l'exemple sartrien, c'est dans l'être et l'événement. Dans l'être et le néant, pardon. Dans l'être et le néant, vous connaissez l'analyse phénoménologique de la liberté de Sartre. Ah, vous connaissez. La liberté est un fait nécessaire, un fait de nécessité, etc. Donc, lui aussi, il joue du paradoxe. Qu'est-ce qu'il dit, lui, sa thèse ? C'est que même l'être passif, disons l'esclave, est libre dans sa passivité. Même l'être passif choisit d'être passif. Choisit de rester passif. Évidemment, il abat d'un coup l'idée classique héritée des stoïciens que la liberté, c'est l'activité. Il dit non, c'est faux. La liberté, c'est la conscience. C'est pas l'activité, c'est la conscience. Et un esclave, c'est une conscience. Un esclave, c'est une conscience, c'est donc libre. Un esclave choisit d'être esclave. Choisit de le rester. Alors, il voit juste. Mais il se trompe sur les mots, et c'est évidemment, quand on se trompe sur les mots, on se trompe sur les idées. Ce qu'il croit être la liberté, ce qu'il appelle la liberté, ça n'est en réalité, maintenant que nous avons fait ce rachi, ça n'est en réalité que ce que nous avons appelé connivence. Quand il dit l'esclave choisit d'être, de rester esclave, il faut entendre l'être passif entend rester passif. Or, ça n'est pas la liberté, ça ne définit pas, ça n'est pas la définition de la liberté, nous dit Rachi. C'est la définition de l'avdout, vous imaginez. Sartre nous dit la même chose. L'être passif entend rester passif, il est donc libre de ça. Rachid dit, c'est lui l'esclave. Cette connivence est le fait même, cet entendement est le fait même de la servitude. Et ce n'est pas le contraire, ce n'est donc pas la liberté. Comme Sartre le croit. Extraordinaire. Rachid se fait Sartre. On vous dirait, aujourd'hui, c'est plutôt bien vu. Donc, Bah, tout de même, à l'époque de Rachi, c'était héroïque. Surtout de se faire Sartre à l'avance. Ce que disent Rachi et Rabbeinu Yona, c'est que la liberté se trouve encore en deçà. Se trouve en deçà de toute forme de connivence, en deçà de toute forme d'entendement. Dans la pure disposition. La pure disposition interdit, rend impossible toute connivence. Toute connivence avec le maître, fût-il le bon Dieu. Ouais, d'accord, mais qui me dit que c'est pas de la servilité, cette pure disposition, ça n'est pas de la servilité plus servile que la servilité. Ah, je pastiche Lévinas hein, sur la passivité. Passivité plus passive que la passivité. Ici, qui me dit que cette pure disposition, ça n'est pas de la servilité plus servile que la servilité. Ce secret des anges. Alors, je vais vous mettre à contribution cette fois. Alors, qui nous dit que ça n'est pas de la servitude absolue ? Qui me dit que cette pure disposition dont Rachid nous vante les vertus, qui me dit que ça n'est pas de la servitude absolue. Alors je vais vous mettre sur la voie et vous pousser un peu, nous verrons si ça roule. Qu'est-ce que nous avions dit ? Tout à l'heure. Nous avons dit la servitude est d'autant plus servile qu'elle est moins absolue. Il n'y a pas des esprits un peu logiques ou mathématiques ici, des esprits géométriques. Hein ? Hey, Jonathan, dis-moi, c'est toi le... Ah, bravo ! Tu regardes un Disney. Je reprends. La servitude est d'autant plus servile qu'elle est absolue. Conséquence. Allez, conséquence. Hein ?
Qu'elle est absolue ou qu'elle
n'est
pas ?
Qu'elle est. Non, qu'elle est moins absolue. Et d'autant plus. Oui, j'ai dit quoi, absolue ? Non, non, moins absolue. Ouais. D'autant plus servile qu'elle est moins absolue. Ben, c'est simple, la conséquence. Voilà. La déduction. La servitude est d'autant moins servile qu'elle est plus absolue.
Qu'elle est plus absolue.
Qu'elle est plus absolue. À l'absolu, donc, on a une servitude à servilité nulle. Exemplaire. Ça, c'est le secret des anges. Ah ben, on vous a dit que Rava, il se faisait saigner, etc. Il fallait réfléchir avant de dire, non, c'est le petit chemin. Hein. Ça va être difficile. Cette servitude non servile, c'est cela qu'on appelle la pure disposition. On peut même aller plus loin et dire que face à la dite liberté sartrienne, qui n'est encore, comme on l'a montré, que de la servitude, la pure disposition, plus archaïque, au sens lévinassien, plus ancienne, plus antérieure dans l'être de l'homme, plus essentielle, est la condition même de la liberté. S'il n'y a pas cette pure disposition, nous sommes dans la avdoute, dans la servitude. Il n'y a pas de solution à cette servitude de l'homme que l'absolu de cette pure disposition. Comme dirait Rashi, comme a dit Rashi, cette disposition presque amoureuse. Alors, d'assujetti ce que nous sommes en vérité, telle est notre condition. Nous sommes des assujettis. D'assujettis, nous devenons des sujets. Parce qu'en vérité, nous ne sommes pas des sujets. En réalité, en vérité, nous en sommes. Mais en réalité, nous ne sommes pas des sujets. Nous sommes, ou du sujet, nous n'avons que l'assujettissement. Nous sommes sujets en tant que nous sommes assujettis, comme on dit, les sujets d'un roi. D'assujettis par cette pure disposition, nous devenons des sujets. De la suggestion, nous passons à ce qu'on appelle dans la modernité, nous passons à la subjectivité. Mais il faudrait dire, encore une fois, en jouant sur la langue et ses possibilités, de la suggestion, nous passons à la subjection. C'est que c'est plus
par le caractère de ce qui est subjectif. La subjectif. Ouais.
Je vois pas comment est-ce que dans l'archive, ouais. Vous voyez que c'est évident qu'on n'est plus des Avadim. On n'est pas des Avadim. Mmh. Il y a marqué Keshar Avadim. Mmh.
C'est pas
sous-entend pas que nous ne sommes pas des Avadim, mais en plus, c'est commun de voir que les Israéliens sont des
Avadim.
On est Avadim, mais qui nous dit qu'on n'est pas plus des Avadim, justement, que ces gens-là qui font que qui écoutent avant d'agir. Peut-être qu'on est plus des Avadim parce que.
J'ai pas compris ce que.
D'emblée, on dit on va accepter qui va nous être soumis. Parce qu'on fait confiance par
ça, pas, c'est... etc. Ça, c'est la pure disposition, c'est l'angélisme.
Ça, c'est au-dessus, c'est le level absolu. C'est la science. Ouais, pourquoi ce serait inférieur?
Mais c'est pas inférieur, ça veut dire quoi?
Moins servile.
Non servile, pas moins servile, non servile.
C'est ça que je comprends.
La servilité implique toujours de la connivence. D'accord? J'ai attention, une limite. Eh, quand même, il y a une limite, hein? Au-delà, je me révolte. Donc, un Ben Israël, il accepte la Torah, mais en servile. Il dira, tu sais, j'accepte, mais il y a une limite, hein? Au-delà, mon Dieu. D'accord? Ça, c'est on en est tous là. Alors, quand on est un peu froum, bon, après, on peut dire la même chose de l'homme moderne. Hein? L'homme moderne, c'est pareil. Il est aussi servile. Il n'a pas le même maître. Bon, d'accord. Son maître est Emmanuel Macron. Franchement, je préfère Dieu. À Macron. Donc, t'as dit, je préfère Macron. Je veux dire. Donc, c'est y a, tu vois, c'est, ça n'a rien à voir.
Il y a des choses qui m'embêtent là.
Ouais.
Est-ce que l'homme a comme objectif, entre guillemets, d'être un égal.
Quel homme? L'homme ou le juif? L'homme. À l'obligation, enfin à l'obligation.
Est-ce qu'il a l'objectif d'égaler
les anges,
les anges et quid dans ces cas-là du libre arbitre des anges?
Il n'y a pas de libre arbitre, ce qu'on appelle, ce que vous appelez. Enfin, je ne vais pas entrer sur la question du libre arbitre, mais il n'y a pas de libre arbitre. Non, l'ange n'en a pas.
Non, l'ange, ah oui, que l'homme il a.
Oui, que l'homme est là. Ce qui fait à la fois sa force et sa faiblesse.
Ce qui me gêne un peu, c'est cette comparaison.
La différence de l'homme, l'ange n'est pas un ange librement, tandis que l'homme peut devenir librement un ange. C'est ce qui fait sa grandeur. Hélas, c'est plutôt rare. En général, comme dit Pascal, l'homme fait la bête. Oui, c'est pas un objectif, c'est de naasev nishma. C'est ça le matin de Torah, c'est que ça le matin de Torah. C'est accéder à cette pure disposition. Sinon, c'est la servilité. Mais c'est la réalité juive orthodoxe, c'est ça, hein, c'est de la servilité, rien d'autre. Bah, la réalité moderne aussi, donc bon. Il y a des esclaves violets, des esclaves verts, des esclaves rouges. C'est comme les bonbons. C'est aussi mauvais pour la santé.
Ça ne vous ennuie pas que cette pure disposition, si par exemple elle touche un homme, bon, c'est vrai, il le vit comme ça. C'est qu'il accepte toutes les mitzvot. Et du fait même qu'il accepte, alors. Ses actes seront supérieurs à sa science. Et ça ne vous gêne pas ici que cet homme-là, par exemple, en fait, n'ait pas besoin de savoir, en définitive, d'étudier, de savoir de. Cette seule disposition lui permet, je dirais,
non. Presque d'avoir cet objectif-là. C'est ce qu'on a vu la dernière fois avec la tentation de l'ignorance. Oui. D'accord ? Ouais. Alors, on y a répondu la dernière fois. Il n'y a pas, chez Rabbeinu Yonah, la tentation de l'ignorance, puisque, justement, cette pure disposition implique non seulement de faire, mais elle est, comment dire, c'est une disposition à connaître. tout autant. Donc il n'y a pas du tout la tentation d'ignorance qu'on avait dénoncée la dernière fois. On avait dit, mais quoi, mais... Du coup, pour que l'acte soit toujours, excède toujours la science, eh ben, il suffit de ne plus rien savoir. Comme ça, on est toujours gagnant. Voilà, ben, cette tentation, il n'y a pas dans la pure disposition. Parce que cette pure disposition, ça n'est pas de la paresse. Ça n'est pas de la paresse. C'est tout le contraire de la paresse. Se disposer à tout faire, c'est tout le contraire de la paresse. Puisque la paresse, c'est une disposition à faire de moins en moins. À faire le moins. La pure disposition, c'est même pas une disposition à faire le plus. C'est une disposition à faire tout. Une disposition. Il n'est pas dit que nous ferons tout. Ça, c'est pas le problème. Regarde ce que dira Léonard. Il nous dégage de tout ça, de sous ce délire de ces... Ah, il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire. Ah, t'as pas fait encore cette mitzvah, allez, vas-y. Il y a des mecs qui passent toute leur journée à ça. Et Léonard dit non. L'enjeu de tout ça... Ça n'est que ça, d'accéder au Narasé de Nishwa, à cette pure disposition. Alors, Kéinoua ça, c'est comme s'il les avait faites. C'est réglé, t'es tranquille. Non, tranquille, on a compris. Ouais.
J'ai pas compris comment tu avais écarté l'hypothèse que cette pure disposition n'est pas servitude absolue.
Non, j'ai pas dit ça. Non, servilité, tu veux dire. Parce que ce qui dérange dans la servitude, c'est pas la servitude, entre guillemets. C'est pas de servir. Ce qui dérange, c'est la servilité. Ce qui dérange dans la servitude, c'est la servilité. C'est la conscience servile. Et il n'est de conscience servile que dans la connivence. C'est-à-dire qu'à la condition, il n'y a de conscience servile que si l'on s'assigne des limites au-delà desquelles on envisage la révolte. Donc tu devrais comprendre qu'il n'y a de saine révolte que radicale. C'est-à-dire qu'il n'y a de saine révolte que contre la servitude elle-même. C'est-à-dire contre la servilité. Il n'y a de saine révolte que contre la servilité. Servilité radicale, c'est-à-dire qu'on veut éradiquer la servilité. Ça, c'est une saine révolte. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe quasiment pas. Parce qu'encore une fois, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il n'y a en vérité, en réalité, que de révolte contre des servitudes inacceptables, mais pas contre la servilité.
Est-ce qu'on sait jamais...
Quoi ?
Comment on se situe ? Soit tu parlais des Froum tout à l'heure qui avaient...
Sur quoi on ne sait jamais ? Si, hein, c'est tout su. On est des consciences serviles. Tu commences par là. Alors, plus ou moins, on est plus ou moins...
Mais c'est la connivence qui est un piège.
Si oui.
On a détruit.
Si.
Si on ne veut pas de connivence, avec Dieu, on met des distances. On ne veut plus de connivence.
Mais c'est ça qu'on appelle la pure disposition.
Ça réside dans la non-connivence.
Oui, dans la non-connivence, voilà, exactement. Donc, dans une certaine distance avec Dieu.
Oui.
Oui, ce qu'on appelle la transcendance.
Oui, d'accord, mais ça à la limite, je veux dire, ça peut être tout à fait concevable, mais néanmoins, derrière, il y a l'acceptation de toutes les mitzvot. On recule la connivence avec Dieu. Avec la
oui, mais il y a. Pour que, encore une fois, cette acceptation réelle, si ça n'est pas qu'un mot, parce que dans la plupart des têtes froumes, ça n'est qu'un mot. En vérité, ça n'est pas l'acceptation de toutes les mitzvot. C'est l'acceptation d'une condition servile jusqu'à certaines limites. Au-delà de laquelle, révolte.
Oui,
Et la preuve, on le sait même sociologiquement, on le sait, le monde Froome sécrète de la révolte. Et c'est normal. Ah, d'accord. On aborde, c'est un autre volet. On monte d'un cran. C'est pour une autre fois.
Le monde Froome qui sort.
Tu veux défendre ?
Non. Le monde Froome qui est entièrement sourcé dans la Shoah, à travers la Shoah.
Là ?
La Shoah. Qui a traversé la Shoah. Celui-là.
C'est-à-dire quoi, sourcé ?
Tous les gens, tous les Froomes qui sont.
Rescapés ?
Sont tous des enfants.
Ah, enfants.
Qui ont traversé la Shoah.
Ouais, alors.
Et qui ont. Ces gens-là ont traversé la Shoah et ils sont sortis Froome. Ils sont restés. Ils
étaient pas les enfants alors.
Les enfants, on va en parler d'eux pour l'instant. On va parler de ceux qui sont.
Donc ceux qui ont traversé la Shoah, ouais. Voilà. Et qui sont restés Froome. Alors.
Ceux-là, c'est l'épitome de la pure disposition. Ils ont accepté tout. Tout.
Oui. Peut-être. Hein.
Donc tu peux pas maintenant cracher sur la suite, parce qu'eux, ils ont traversé.
Bah tu sais, on a qu'à recommencer, on a qu'à faire traverser tous les autres. Tous, on les fait passer par des camps. Des camps de vacances. Avec des tatouages des gars comagnés, là. Non, mais ça veut rien. Oui, d'accord, tu me dis oui. D'accord, oui, c'est possible.
Mais au niveau humain, qu'est-ce que c'est qu'un rapport sans non-connivence ? C'est-à-dire un rapport de liberté.
Non servi.
De l'instructoire à moi, de.
J'ai un rapport heureux, déjà. C'est ce que tu veux que je te dise ? Après, d'accord, après, il faut refaire, repenser, là. Les relations humaines, etc., etc. Bon, ben ça, c'est l'éthique. Après, fondée sur le secret des anges.
Pour le mode de... Est-ce qu'on pourrait dire que, en fait, c'est la connivence absolue ? C'est-à-dire, c'est la...
Quoi ?
Pour le... Pas la servitude.
La pure disposition ?
C'est marqué Ava, quand même, non ? Ava, je sais pas. C'est pas la connivence.
Ah, dis-moi, t'as une drôle d'être d'amour.
Après, la relation amoureuse divine, j'imagine différemment qu'une relation classique, quoi. Ça.
Ben, Rambam dit non. Il dit, tu peux pas, là. C'est, justement, il faut te représenter la relation, entre guillemets, divine, comme tu dis, comme une relation d'amour avec une femme. Décuplé.
Vous mettez ça en opposition avec...
Hein ?
Vous mettez ça en opposition avec la connivence amicale ?
C'est-à-dire quoi, je m'en...
C'est de la familiarité quand on parle de connivence, par exemple.
De quoi tu... Mais non, on parle pas de la connivence. Oui, mais c'est une connivence, j'ai défini la connivence. L'entendement.
J'attends une limite.
C'est... Voilà, c'est je me donne des limites.
D'accord.
Mais c'est pas concerté avec le maître. Tout ça, ça se fait dans un jeu, dans un rapport de force.
C'est pour le meilleur et pour le pire, quoi.
Ouais, c'est pour le meilleur. Ouais, ouais. Ah, oui. Et le maître, si tu veux, alors, mais le maître inconsciemment, c'est, devine la connivence de la conscience de l'esclave. Devine l'entendement. Et tout son jeu, tout le jeu, ce sera pour lui de repousser justement les limites, à l'insu de l'esclave. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, on pourrait même faire une sociologie à partir de là, que tout tes copains néolibéraux, voilà, si tu m'avais compris, hein, ils sont tout le dispositif du management, etc. Ça n'est jamais qu'une manière de repousser toujours plus loin les limites de la conscience servile, d'un entendement servile. Attends, t'imagines, après on dispose des hommes à volonté. Bon, mais là, alors, la prochaine fois, c'est juré, binéder, on fait le Lipschitz, parce que c'est tout autre... C'est une critique des Lumières et surprenante. Assez belle. Et un tout autre aspect de la... Un tout autre commentaire de cette Mishnah. Voilà. Donc, vous gardez le papier, parce qu'il y a Lipschitz dessus. Vous êtes prié de le garder.
Ah, vous n'avez pas eu le papier. Il reste un...
Et la prochaine fois, c'est quelle date?
Bon, sinon, on fera un photocopie. Voilà.
La prochaine fois, c'est quelle date?
Dans deux semaines, si tout...
Non, pas, vous avez échangé pour celui-ci.
Non, avec Alain?
Oui.
Je ne sais pas, je vais voir avec lui, mais je ne vais pas faire la semaine prochaine. Hein. Normalement, dans deux semaines, mais de toute façon, Julien vous avisera. Tout juste, 10h15. Ah, c'est...
J'avais une question à vous poser.
Tiens, je sais pas là.
Stop. Je vais pas me tromper parce que si j'appuie sur X, là, c'est mort.